Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
À Oran, vous êtes né et vous avez vécu les premières années de votre vie. Vous étiez insouciant, déjà curieux de tout, aux côtés de vos grands-parents immigrés espagnols dans le cadre de l'épicerie café qu'ils tenaient dans le petit village de Falcon. Puis votre tante vous a emmené à Reims pendant la guerre d'Algérie. Et de Reims, vous avez atterri à Rennes.
Ouais.
C'est important de le préciser parce que c'est dans cette ville que vous avez été élevé par votre mère et vos deux sœurs, que vous avez découvert d'abord la pop anglaise, du Velvet Underground. Il y a eu la Motown aussi, il y a eu Syd Barrett et le groupe Market Sad et Skinky Toys. C'est d'ailleurs Franck Darcel hein, qui sera à l'origine de l'enregistrement de vos premières maquettes et donc de votre signature en maison de disques avec ce premier album Mythoman sorti en 81 et puis suivra évidemment La Notée en 84, le deuxième qui comportait le fameux Weekend à Rome. Le résultat était simple, direct, à l'image de votre premier Olympia qui s'est joué à guichet fermé. C'était le 18 avril 1985.
Exactement.
Donc il y a 40 ans ou presque, un succès immédiat. Pour marquer ces 4 décennies, vous êtes revenu sur scène, sur ces grandes scènes avec pour votre Étienne Dao Show, une date particulière, celle de Bercy, c'était votre premier Bercy, c'était le 22 décembre 2023. 26 morceaux viennent de sortir avec le Étienne Live pour marquer définitivement ce moment, ce passage. Ça vous fait quel effet de réécouter ces titres avec les images que vous avez vécues et l'ambiance que vous avez vécue lors de cette tournée extraordinaire ?
C'est vrai qu'il y a des moments de magie pure, enfin où tout semble s'emboîter. C'est-à-dire l'équipe technique, les musiciens, les gars qui font la scénographie, enfin tout est parfait quoi. Je veux dire, il y a vraiment un alignement. Et là, j'ai vraiment vécu ma plus belle tournée, mais je suis pas le seul à l'avoir vécu. Hier soir, on a fait justement la fête parce qu'il y avait une projection en Atmos du film et on s'est tous retrouvés. C'était très émouvant de revoir ces images. Ça rend déjà très nostalgique parce qu'on a tellement été heureux. Que de se dire que c'est fini. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas reproduire la même chose. Ce sera autre chose, peut-être ce sera mieux. Hein. Mais se dire que là, vraiment, ça y est, on clôture un chapitre, ça pique un peu, je trouve.
Quand on s'était vu, on a évoqué ces 40 ans. C'est vrai que c'est passé une rapidité extraordinaire. Vous doutiez un peu, Étienne. C'est compliqué de se dire, ça fait déjà 40 ans que j'occupe la scène, 4 décennies, 4 générations finalement.
Oui, mais en fait, ça, vraiment, ce genre de choses, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je ne m'en rends pas compte. J'ai l'impression que, enfin, effectivement, je réalise que c'est très vieux, tout ça. Mais qu'en même temps, j'ai une notion du temps qui est étrange, peut-être, parce que ça me paraît très court. J'ai l'impression que c'était hier, j'ai l'impression que je commence, j'ai l'impression de démarrer en fait à chaque fois. Ça me fait toujours cette impression. J'ai pas du tout l'impression d'avoir un acquis, d'être assis sur quelque chose de solide. J'ai toujours l'impression d'être sur un strapontin. Mais c'est pas mal en même temps, c'est aiguillonne.
Il y a 26 titres à l'intérieur de ce live qu'on redécouvre finalement, que vous avez vous-même dépoussiéré de vous-même. C'est assez étonnant. Vous avez proposé d'autres choses. Et puis cette voix, d'habitude, une voix, elle diminue, on va dire. Elle s'atténue. Vous, elle a pris de l'ampleur. C'est assez incroyable d'ailleurs, cette façon avec laquelle vous chantez. Il y a plus d'assurance. Et surtout, vous prenez plus de plaisir.
Mais je crois que c'est un... Oui, je prends plus de plaisir. Je pense que ça a forcément un lien. Je viens pas du tout d'un milieu de la musique. J'avais jamais ouvert le bec avant mes premières maquettes. Vraiment, ça a été une succession de hasards bien heureux, mais de hasards quand même. Et c'est un métier qui s'apprend. Alors, il y a des gens qui ont ça de manière innée. Moi, j'ai dû l'apprendre. J'ai pris le temps. Et c'est vrai qu'en fait, je me sens beaucoup plus heureux aussi dans mon travail parce que j'ai l'impression de maîtriser un peu les choses, mais pas d'une manière technique, comme un amateur. J'aime l'idée d'être un amateur, parce qu'il y a le verbe aimer dedans, et que c'est toujours quelque chose qu'on est en mouvement, quoi. On apprend en permanence. Et donc voilà, j'ai pris le temps d'apprendre mon métier, et je crois que j'ai moins peur aussi. La peur s'atténue, s'envole, en fait, et fait que... La voix, c'est un truc très particulier, les émotions sont dans la voix, on entend tout. Et plus on chante avec tranquillité, meilleure la performance est. Voilà.
Finalement, vous aviez peur de quoi ?
De pas être à la hauteur. De pas savoir faire les choses comme on a toujours une image, une idée de soi qui est meilleure que ce qu'on est probablement, ou alors du but qu'on a à obtenir, enfin de la marche qu'on a à monter. J'avais toujours l'impression de pas être assez bien pour moi-même. Hein. Je veux dire, je parle pas des autres. Hein. Je veux dire, c'est de soi à soi. Voilà. J'avais envie d'être meilleur à chaque fois et je me trouvais pas assez bon à chaque fois.
C'est Thierry Suc qui a réussi à vous convaincre d'aller chercher des grandes salles. Vous avez toujours d'ailleurs assumé, hein, vous avez toujours dit, moi je préfère le velours des places de théâtre, l'Olympia, les petites scènes.
Ouais, mais ceci dit, pendant les 20 premières années, j'ai fait que des grosses salles. On commençait dans les petites salles, on finissait dans des patinoires.
Mais vous préfériez quand même cette ambiance de petites salles pendant
très longtemps. J'ai toujours tout aimé. Il y a un moment où j'avais envie de me faire plaisir en fait. Et pour me faire plaisir, j'ai aimé cette proximité des salles comme l'Olympia. Où les gens, on a l'impression qu'ils sont tout proches, en fait, qu'il y a un lien qui se crée, qui est un lien de proximité. Mais je dois avouer que grâce à Thierry aussi, ça a été un challenge. C'est, il m'a pas dit t'es pas cap, mais c'était un peu tout comme. Quand il m'a mis au pied du mur et que ça, il m'a contaminé avec son idée, je me suis dit bon bah il faut le faire, faut y aller. Et là a commencé vraiment
le travail,
le turbinage mental. Et je le remercie de m'avoir amené là parce que vraiment j'ai adoré cette tournée. Je pense que le fait de jouer dans des grandes salles n'enlève pas du tout l'intimité. C'est pas ça qui fait l'intimité. L'intimité c'est autre chose. C'est un mélange du lien que vous avez avec les autres, mais aussi des chansons, de ce qu'elles disent. Et qu'on peut toucher des gens qui sont tout à fait le plus haut dans la salle ou le plus loin.
Le petit garçon que vous étiez, qui avait craqué devant ce jukebox, qu'il regardait, qui écoutait, qui prenait du plaisir à l'écouter, que pense-t-il de cet artiste que vous êtes devenu? Justement, le jukebox a été remplacé depuis par des playlists. Et vous faites partie de ces playlists, Étienne. Ça évoque quoi pour vous, ça?
Alors déjà, j'ai l'impression d'être la même personne depuis vraiment que je suis tout petit. Je crois vraiment que je suis la même personne. C'est ce qu'on me dit aussi, les gens qui me connaissent très bien, ma famille et mes amis proches, j'ai pas beaucoup changé. J'ai toujours eu les mêmes envies, en fait.
La même passion aussi.
Ah oui, ouais. Ça a tout de suite été la musique. Alors peut-être que c'est parce que mes parents étaient mélomanes et qu'il y a eu beaucoup de musique à la maison et que j'ai été au contact de beaucoup de musique. Mais oui, c'est dans mes cellules, quoi. C'est une vraie vocation. C'est pas un métier que j'ai choisi par hasard en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été en fac d'anglais, mais je savais que je voulais faire de la musique. J'osais pas le dire, en fait. Parce que j'étais entouré de gens qui étaient beaucoup plus extravertis que moi, qui étaient dans des groupes. Moi, j'étais le seul à être en solo, en fait. Alors, je faisais mes petites chansons dans mon coin.
Dans cet album, on entend aussi certaines personnes qui ont disparu. On pense à Jen, on pense à Françoise Hardy aussi, Dani. Elles ont façonné l'homme que vous êtes devenu et l'artiste que vous êtes devenu, Étienne. Est-ce que la musique, en tout cas, sert aussi à ça, à faire en sorte qu'elle soit toujours là?
Oh oui, bien sûr. Enfin, déjà, le fait d'être artiste et d'avoir existé en images, en son, ça fait qu'il y a une espèce de d'éternité. C'est comme ça. Hein. Et heureusement, c'est toujours... par exemple, pour parler de Dani, j'ai réalisé un titre dans son album posthume. Et donc, j'ai travaillé avec sa voix. J'avais la piste de la voix et donc je devais arranger autour de sa voix. Et c'était très, très, très fort et très remuant d'avoir le souffle, d'entendre respirer. Ça paraît idiot comme ça à dire, mais de travailler avec sa respiration, c'était très émouvant. C'était très fort.
Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que vous êtes un vecteur de boost. Vous êtes un booster. Etienne de... Non mais c'est vrai. Jane Birkin, elle n'a jamais accepté le décès de sa fille. Et c'est vous qui avez réussi à lui apporter cet écrin pour qu'elle puisse s'exprimer, mettre des mots sur des mots MAUX. Dani, vous étiez là aussi. Françoise, c'était la même chose. Ça vous touche, ça, de vous dire que... À un moment donné, vous réussissez à déclencher quelque chose et à leur offrir ce qu'elles n'arrivent pas à mettre en place.
Ça, c'est l'amitié, en fait. Quand on a des amis ou des gens qu'on aime, vraiment, on est là. Dans le cas de Jane, c'était particulier parce qu'il fallait arriver à expulser ce chagrin pour en faire une musique, en faire une chanson, qu'elle a accepté de chanter sur scène. C'était quand même tous les soirs, je me disais, mais comment elle va faire? Parce que ça reconvoquait des émotions tous les soirs. Et c'était la première chanson qu'on a fait pour son album, toute première. C'était comme un test, à la limite, je ne pense pas que c'était son idée. Ce n'est pas le genre de personne à tester. Mais quand même, il y avait un cap à passer et elle avait plein de bouts de phrases. Le texte n'était pas fini, vraiment. Et dans ce texte, il y avait pas mal de choses. Il y avait aussi la question de « est-ce un accident ?» Ce qui est une façon peut-être moins dramatique de voir la chose. Et c'est l'option que moi j'ai prise, en fait. Donc j'ai retravaillé tous ces fragments de texte qu'on a mis dans une musique avec Jean-Louis Pierrot, une musique un peu à la Kurt Weill, enfin donc avec de l'énergie, que Jane avait choisie. J'ai fait cette maquette, je l'ai chantée, je lui ai envoyée, et là, silence radio pendant 5 jours. Et c'est compliqué hein, quand même de mettre en musique un drame comme ça, le drame d'une mère. On ne peut pas se projeter, enfin, c'est impossible. Et au bout de 5 jours, j'ai eu un mail, et c'était... j'ai écouté, j'aime beaucoup. Donc déjà, les épaules font ça. Et puis ensuite, elle me dit, j'écoute en boucle, j'écoute. Et puis après, voilà. Une fois qu'on a passé le cap de cette chanson, on a pu écrire tout le reste de l'album, qui est aussi d'une folle intimité. Mais tout d'un coup, c'était, on avait mis de côté le drame originel de cet album. Et on a pu envisager le reste de l'album très sereinement. Elle était très heureuse de cet album, qui réussit aussi parce que ses textes sont magnifiques et que c'est très culotté, c'est plein d'une poésie birkinienne. en fait.
En tout cas, elle vous aimait beaucoup, ça c'est une certitude. Sur scène, vous chantez « Que tu n'aimais que moi », notamment à un moment donné, dans un des refrains. Le public réagit, surréagit d'ailleurs. Ce tête-à-tête, il montre aussi à quel point le public vous voit un amour extraordinaire depuis vos débuts.
C'est réciproque.
Voilà, mais vous qui justement êtes plutôt pudique, réservé, comment vous le vivez ça, cet amour grandiose avec eux?
La scène fait que ça provoque des choses en fait. C'est-à-dire que la situation, le fait d'être dans son espace, qu'on a choisi une scénographie, des lumières, des arrangements, qu'on a travaillé pendant des mois, fait qu'on est chez soi. Et c'est le cas de beaucoup d'artistes, et j'en fais partie. On est beaucoup plus à l'aise sur scène que dans la vie. Et donc, sur scène, il y a une espèce de lâcher prise, en fait. Parce que c'est un moment où il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est vraiment l'instant présent. On est vraiment dans le moment, dans le chant, et ça enlève toute pudeur. Par exemple, il y a une chanson qui est particulière, c'est « Ouverture », avec laquelle je terminais. Ouais. Parce que ça peut être une réouverture.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est une chanson qui était écrite pour une personne dont j'étais très épris et qui est devenue finalement une chanson collective. Quand je sens cette chanson, Ouverture, c'est vraiment... je sens que les gens la prennent pour eux. Enfin, ils se l'accaparent. C'est leur chanson. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. On sort complètement du cadre intime à deux pour quelque chose de plus grand que soi, plus beau.
Tout ça pour dire que la Daomania ne s'est jamais arrêtée. Qu'elle perdure. Non, mais c'est vrai que c'est même limite décuplé. Vous aimez tirer la nuit sur les étoiles, mais pas que. Cette tournée, elle a montré à quel point vous visiez les étoiles, mais à quel point vous partagez aussi l'envie de regarder le ciel, ce qui se passait autour de nous, et de vivre davantage et mieux ensemble. Vous avez un côté de plus en plus sexy, Étienne Dao, dans la voix.
C'est gentil,
dans votre façon, non, mais dans votre façon d'interpréter aussi les chansons. Il y a ce côté romantique, de plus en plus assumé.
Merci, merci.
Vous le ressentez, ça, ou pas?
Ben non, c'est très difficile de se voir, enfin d'avoir le recul. De se voir, j'aime pas beaucoup me regarder, vraiment. Là, par exemple, hier soir, il y avait la projection du film.
Et donc vous étiez un personnage central.
Je m'aperçois qu'en fait, je regarde les autres, mais je ne me regarde pas. J'ai comme une espèce de chose. Donc je ne sais pas, on ne sait pas soi-même ce qu'on provoque sur les autres. Il vaut mieux pas savoir, je trouve.
Vous avez su vous protéger au fil du temps, sur vos émotions, sur effectivement un certain nombre de choses. Là, sur scène, vos titres, je le disais, ils sont métamorphosés. Même ceux de la deuxième moitié des années 80, quoi, que ce soit Weekend à Rome. Il y a encore énormément de personnes dans le public, hein, je crois la majorité, qui souhaitent partir un week-end à Rome avec vous un jour. L'épaule tatou, le comme toi, le grand sommeil. Vous avez vraiment tout revisité. Est-ce que vous-même, vous avez redécouvert différemment ces chansons sur scène?
Ah oui.
Dans cette formule-là.
Parce qu'à chaque fois, enfin surtout quand ce sont les chansons un peu anciennes, je les réarrange à chaque fois. D'abord pour avoir une forme de fraîcheur par rapport à ces chansons qui sont assez anciennes souvent. Et pendant une période, j'avais mis de côté un peu tous les tubes. C'est pas honteux, hein. C'est pas ça, j'assume tout. Mais je trouvais qu'il y a plein de chansons qui prenaient de l'espace, qui faisaient de l'ombre à des chansons qui étaient plus récentes. Et que je me disais quand même, ces chansons, elles sont au moins aussi bien, voire mieux. Parce qu'on gagne en maturité, dans l'écriture, dans les arrangements, tout. Et donc j'avais envie un peu de les mettre un peu sous le tapis. Puis maintenant, plus du tout. Vraiment, j'assume tout l'ensemble globalement. Je suis complètement réconcilié avec tout. Il n'y a pas de choses qui me dérangent du tout. Au contraire, c'est plutôt même du plaisir de pouvoir... En plus, c'est un coup de bol énorme d'avoir des tubes, d'en avoir autant. Parce que ça crée des liens avec les autres. Ça fait des histoires avec le monde.
Ça s'appelle le talent.
Oui, mais aussi, c'est un petit truc qu'on tisse avec les gens qui vont se rappeler que quand ils ont écouté cette chanson, ils étaient avec des amis ou quelqu'un qu'ils aimaient ou c'était des vacances au bord de la mer. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de moments qu'on peut se remémorer avec les chansons, ça reconvoque ça. Et c'est ça qui fait un lien durable, j'ai l'impression.
Elles ont tout un point commun, vos chansons. Étienne, je les ai réécoutées là, notamment en live. Bah, vous déjà, effectivement. Mais en fait, elles parlent toutes de recommencement.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
C'est systématique. C'est-à-dire que vous avez... D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles n'ont pas pris une ride. C'est qu'elles sont toujours aussi actuelles. Elles regardent toujours vers l'avenir.
Oui, bah oui, il vaut mieux quand même.
Il y a des moments très sombres dans certains chanteurs. Vous, ça n'est jamais apparu dans les textes.
Parce que chaque... Il y a des albums sombres avec des textes sombres. Mais s'il y a des textes sombres, ils sont toujours dans la conquête. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse écraser par les mauvaises énergies ou les mauvaises pensées. Et puis... chaque album, enfin je fais un métier qui fait que chaque album c'est un recommencement. C'est jamais du tout ce qui va se passer. Enfin d'ailleurs, c'est des risques. Par exemple, quand le dernier album est sorti, il faut toujours choisir une salle avant la sortie d'un album pour pouvoir partir en tournée. On ne sait pas si cet album va être apprécié, quel parcours il va faire. On ne sait pas. On a pris l'Accor Arena en sachant pas si on allait vendre 4 disques et demi. Donc c'est toujours un risque, c'est toujours un recommencement. Chaque album est une aventure nouvelle, il n'y a pas de voilà, il C'est comme s'il n'y avait pas de passé, quoi. On recommence tout, on remet tout sur la table.
Il y a une chanson qui explose, et notamment dans ce live, mais finalement qui a de plus en plus de sens, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est Heure hindoue.
Ah oui.
Est-ce que vous le ressentez, ça? Que cette chanson,
oui.
elle a
même quand je la chante, je sens que c'est pas de la lévitation, mais il y a des chansons qui procurent comme une espèce de chose qui va vers le spirituel. Peut-être c'est ça.
C'est quoi la suite, Étienne,
la
du
suite.
Coup, bah après avoir fait une tournée aussi grandiose qui vous a procuré un bonheur absolu.
C'est essayer de me nourrir suffisamment pour pouvoir écrire la suite. Et puis là, j'écris, mais pas pour moi. Je suis dans une production d'album pour un autre artiste que moi. Donc ça prend autant de temps, c'est autant d'amour, autant d'énergie. Et puis après, on verra.
Fier de ces 40 ans passés à nos côtés, heureux.
Moi, je suis surtout fier que vous les ayez passés à mes côtés.
Merci beaucoup, en tout
Merci
cas,
à vous.
Étienne Daho, d'être passé dans le monde d'Élodie. Je précise juste que vous venez de recevoir le prix spécial de la SACEM.
Ah oui, c'est vrai.
De cette
oui.
carrière, et que bah, ça veut dire que Daho est dans la place et qu'il continue à nous accompagner.
Oui,
il s'appelle Étienne Live. Il y a 26 titres, et on ne l'a pas dit, mais il y a des images aussi sublimes avec 11 caméramans en immersion totale qui ont capté ces moments magiques. Donc effectivement, allez regarder ce qui se passe. Merci beaucoup, Étienne.
Merci Live. À vous. Merci beaucoup.